Moi, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu la manière dont la cellule donc, interagit avec son environnement. On est parti de l'idée un petit peu que la représentation qu'on a d'une cellule, c'est assez simple. On se dit, on sait qu'il y a un noyau, on sait qu'il y a une membrane, et puis entre deux, il y a ce qu'on appelle du cytoplasme. Et on a du mal à se représenter ce qu'est le cytoplasme. Si on imagine que la cellule, c'est un sac vide, on a du mal à imaginer qu'elle ait une forme, ou qu'elle puisse bouger, ou qu'elle puisse se déformer. Donc ce que vous avez là, ici, qui a été réalisé en plus-plus principalement, qui sont des petites pièces modulaires, c'est ce qu'on appelle le cytosquelette. Alors le cytoplasme, en fait, c'est quelque chose qui est très encombré. C'est un petit peu comme une chambre d'ado. Donc on ne retrouve pas un peu les éléments. Hein. Donc si vous regardez, c'est un petit peu comme une charpente dans la cellule. Donc vous voyez principalement, a priori, trois couleurs. Il y a du blanc, du rouge et du vert, qui sont les trois éléments principaux qu'on va trouver dans ce qu'on appelle le cytosquelette. Qui sont des éléments plus ou moins fins, et qui vont lui permettre, par exemple, d'être assez stable, de pouvoir résister à des pressions, de pouvoir se déformer, et puis de s'adapter à son environnement. C'est-à-dire qu'une cellule, elle n'est pas généralement dans un milieu liquide, elle va se mettre sur un support, et puis elle va faire comme moi quand j'essaye d'expliquer quelque chose, d'avoir un air docte, ben je m'appuie, et donc je mets des points d'adhérence, et cette cellule fait pareil. Donc là, les points d'adhérence, c'est les choses que vous avez en jaune. Alors je vais vous décrire un petit peu l'ensemble, parce que c'est un petit peu complexe. C'est pas compliqué, c'est juste complexe. Donc en blanc, c'est ce qu'on appelle l'actine. L'actine, c'est ce qu'il y a de plus dans une cellule, ça représente à peu près 5% des protéines. Et ça permet de faire plusieurs choses. Ça permet d'organiser des réseaux, par exemple, et c'est ce qui va donner à la cellule sa forme, sa charpente. Un petit peu, si on imaginait les poutres un peu du bâtiment dans lequel on est. C'est ce qui permet aussi, je parlais des points d'adhérence, de faire ce qu'on appelle des fibres de tension. C'est-à-dire que la cellule va se tendre sur son support, et puis elle va pouvoir avancer, elle va changer ses points. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le réseau d'actine. Alors ici, je l'ai représenté en blanc, puis j'ai fait sur les fibres de tension des petites choses en mauve. Ce sont des protéines que vous connaissez sans doute, qu'on appelle la myosine. Alors la myosine, vous avez peut-être entendu parler de ça dans les muscles. C'est ce qui permet aux muscles de se contracter. Seulement, ce qu'on n'imagine pas, c'est que dans une cellule, eh bien, il y a aussi de la myosine entre les filaments d'actine qui va permettre à la cellule, à son échelle, de se contracter un petit peu ou de s'étirer. Donc ça, c'est le premier réseau, c'est ce qu'on appelle les micro-filaments. Après, en rouge, il y a un réseau qui est un peu plus stable, qu'on appelle les filaments intermédiaires. Autour du noyau, alors ici, c'est la balle en polystyrène bleu, il y a une cage rouge, qui est faite de vimentine, qui va protéger le noyau et qui va lui donner une stabilité mécanique très importante. On va trouver aussi ce qu'on appelle des desmosomes. Alors c'est un gros mot pour décrire des jonctions entre les cellules. Si je considère une seule cellule, c'est pas réel, entre guillemets, puisqu'une cellule est rarement seule. Elle va être avec d'autres cellules et elle va se joindre à d'autres cellules. C'est un petit peu comme des clips qui vont lui permettre de s'associer. Donc de former, par exemple, des tissus qui sont comme des nappes qui vont être étanches, par exemple, et qui vont pouvoir bouger entre elles, et qui vont maintenir la cohérence, la cohésion entre les cellules. Et le dernier élément, celui que j'aime beaucoup, enfin moi, c'est celui qui a mes faveurs, le vert, c'est ce qu'on appelle les microtubules. Alors les microtubules, ils naissent à côté du noyau, dans un espace qui est généré par deux petits tubes, là, ce qu'on appelle les centrioles. Et ils vont organiser ces tubes qui vont rayonner dans la cellule. Ils vont pouvoir être aussi grands que la cellule est grande. Et ils vont avoir plusieurs fonctions, notamment celle d'assurer le trafic intracellulaire. Alors, vous voyez, on a mangé des Kinder pour pouvoir faire des petites vésicules qui vont se déplacer le long des microtubules et qui permettent de visualiser ce qu'on appelle le trafic intracellulaire. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui vont bouger de l'extérieur, qui vont être reçus et qui vont aller vers l'intérieur de la cellule. Et il y a des éléments qu'on va construire et qu'on va acheminer vers l'extérieur de la cellule.
La levure, c'est une cellule, et c'est même une toute petite cellule. Une levure, ça fait 5 micromètres. Donc un micromètre, c'est un millième de millimètre. On est vraiment sur du tout petit, tout petit. Donc ça fait à peu près 5 microns. Donc la levure, on a mis très longtemps à la trouver, à la comprendre, forcément. Et je pense que ça, vous savez tous, globalement, la bière, on n'a pas attendu les années 1700-1800 pour en faire, le pain non plus. Là, le nom de la levure qu'on va utiliser, c'est Saccharomyces cerevisiae. Donc pour ceux qui ont déjà lu Astérix, bah, cerevisiae, ça veut dire cervoise. En gros, c'est le champignon qui permet de faire de la cervoise. C'est ça que ça veut dire. Et ce qui est assez rigolo là-dessus, c'est que donc, ça existait à l'époque des Gaulois. À l'époque des Gaulois, on n'avait pas de microscope. Mais ils avaient remarqué que quand on prenait nos graines, ou quand on prenait par exemple des grains de raisin, qu'on mettait ça dans une boîte, dans une amphore, et qu'on la fermait de façon étanche, au bout d'un certain temps, le jus de raisin, il avait un goût qui picotait un peu et qui faisait tourner la tête, ou de la même façon avec les grains. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que de façon très empirique, au final, ils ont réussi à apprendre pas mal de choses sur des choses microscopiques, et ça, je pense que en ce moment, tout le monde a été bien sensibilisé sur ça. Quand on regarde au niveau de nos mains, je vous ai dit de vous balancer du gel hydroalcoolique en arrivant, c'est parce que sur vos mains, il y a évidemment des cellules humaines, comme celle-là, mais il y a aussi plein d'autres trucs. En ce moment, on parle beaucoup de virus, mais sur vos mains, vous avez aussi des bactéries, vous avez aussi des champignons, vous avez aussi pas mal d'autres choses. Et en fait, évidemment, si vous l'avez sur vos mains, ça veut aussi dire que vous allez en avoir à peu près partout, donc aussi bien sur les végétaux, etc. etc. Et en fait, donc, c'est ce qu'on appelle la microflore. Donc on va avoir plein de petits trucs qui vont être dans nos végétaux. Et en fait, là, ce que l'humain a dû faire, c'est essayer de comprendre pourquoi, quand on mettait des grains naturels, au bout d'un moment, il allait y avoir un truc qui allait s'appeler la fermentation. C'est pareil, pourquoi est-ce que, dans certains cas, ça fermente, et dans d'autres cas, ça fermente pas du tout? Votre pain, vous pouvez en manger une certaine quantité, il y a assez peu de chances d'avoir des effets de l'alcool associés. Donc ça, il a fallu le comprendre, ça a été relativement long. Donc en fait, pour situer un peu les ordres de grandeur, on a vu la levure, donc Saccharomyces, pour la première fois dans les années 1700 à peu près, et on a compris comment ça marchait dans les années 1850. Donc c'est relativement récent de comprendre comment ça fonctionne. Et ce qu'il y a d'assez étonnant sur la levure, c'est qu'elle va avoir différentes façons de travailler. En fait, la levure, si on la met dans des conditions qu'on va considérer comme normales, c'est-à-dire un peu comme les conditions que nous, on aime bien, ce qu'on aime bien, nous, c'est on a besoin d'être présent, on a besoin d'avoir de l'énergie. Donc là, la levure, ce qu'elle aime, c'est le sucre. D'une façon ou d'une autre, elle veut du sucre. Donc ça peut être des grands sucres qu'elle va découper en petits morceaux pour faire des petits sucres. Mais en toute hypothèse, il faut de l'énergie. Et si on lui donne de l'oxygène, donc on la laisse respirer normalement, ce qu'elle va faire, notre levure, elle va produire de l'énergie, elle va produire du CO2 et elle va se diviser à toute vitesse. Donc ça, si vous voulez reproduire votre levure pour en avoir des grosses quantités, par exemple, si votre métier, c'est producteur de levure boulangère, vous allez faire pousser votre levure comme ça, vous allez lui donner de l'oxygène, de l'énergie, et votre levure, elle va se reproduire. Maintenant, l'autre solution, et ça, c'est un mode un peu plus bizarre, si votre levure, vous la mettez en présence de sucre, mais que vous ne lui donnez pas la possibilité de respirer, elle va toujours produire de l'énergie, elle va toujours produire du CO2, mais en plus, elle va produire de l'alcool. Et elle va quasiment pas se diviser. Donc là, on a les deux façons de fonctionner. Et là, l'idée, ce serait de vous montrer un petit peu ça par vous-même. Donc, alors là, il me faudrait éventuellement des volontaires. Si je peux avoir une volontaire, deux volontaires. Je pense que deux volontaires, on est bien, parce que le troisième, ça va être de l'eau. Donc on va s'en sortir. Alors, quand on fait une manip, en règle générale, en science, le point de départ, c'est toujours réfléchir, qu'est-ce qu'on veut regarder? Donc là, moi, ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est que ça produit du CO2 et que ça produit de l'alcool. Ça, c'est mon objectif. Et après, je voudrais quand même vous montrer que ce que je vous ai raconté, c'est pas des conneries, donc il me faut bien du sucre et de la levure pour qu'on ait le phénomène qui se produit. Donc ça, c'est l'objectif. Là-dessus, on va rajouter des contrôles. Donc les contrôles, ce qu'on va pouvoir faire, c'est garder, par exemple, une bouteille d'eau toute seule, dans laquelle on va rien rajouter. Donc ça va être ma partie de la manip. Et ensuite, on va avoir, vous allez avoir chacune votre bouteille. Donc là, on a du sucre. Donc la première étape, si vous voulez bien, ce serait de prendre chacune un des falcons de sucre et le mettre dans l'eau. Et alors là, ce que je vais vous demander, c'est d'homogénéiser votre sucre. Votre objectif, c'est qu'il soit entièrement dissous. En fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est les conditions de vie idéales de la levure. Ce qu'elle va préférer dans la vie de la levure, c'est d'avoir une piscine tiède. Donc j'ai rempli avec de l'eau tiède juste avant que vous arriviez. Et ce qu'elle va vouloir, c'est de l'énergie, donc elle va vouloir du sucre, et elle veut avoir sa petite piscine avec de l'énergie partout. Donc il faut vraiment que ce soit complètement dissous. Là, t'es nickel. Hop, il est au fond. Donc là, il faut le secouer jusqu'à ce que notre sucre soit entièrement dissous là-dedans. Donc là, on se fait notre petite piscine pour levure.
Donc, ouais, je vais vous parler en fait du maïs, de la manière dont le maïs a pu être domestiqué et à quoi il ressemble. Vous connaissez le maïs, à quoi il ressemble maintenant. Le maïs, il n'a pas toujours ressemblé à ça. En fait, l'ancêtre du maïs, c'est une plante, alors qu'on a en photo ici, il en existe encore de manière naturelle, mais ce sont des plantes qui sont très fragiles, qu'on appelle la théosinte. Et la théosinte, ça fait des petits épis comme ça, où il y a quelques grains dessus. Au niveau rentabilité, ce n'est pas génial. Et il y a à peu près 10 000 ans, l'homme a domestiqué le maïs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on va planter, on va regarder ce que ça donne. Et puis, si on commence à avoir des petits changements, des variations en fait, dans le champ, un épi qui est un peu plus gros que les autres, par exemple, mais on va le garder. On le ressème, et l'année d'après, on a une meilleure récolte. Et de fil en aiguille, on arrive à améliorer les espèces. C'est le principe donc, de la culture, de l'agriculture, de manière générale. Et donc, il y a 10 000 ans, effectivement, on a... récupéré, on est parti de la théosinte, et en 10 000 ans de temps, on arrive à des épis qui sont de taille plus que respectable. Et donc, on a tous l'image du maïs bien jaune, qu'on trouve dans les champs. Il faut savoir que le maïs n'a pas toujours été comme ça. Vous avez du maïs coloré, naturellement, coloré. Et ici, le cas le plus visible, ça, c'est du naturel. C'est pas de l'OGM. C'est un fermier qui a retrouvé des grains ancestraux qui les a semés, et qui a ensuite fait des croisements avec un maïs moderne, et simplement en faisant des croisements, donc il n'y a pas une manipulation d'OGM, je mets un gène d'une autre espèce, etc. C'est simplement des croisements entre plantes qui nous permet d'avoir une variabilité dans la couleur des différents grains. Et là, vous avez des grains qui sont... on peut trouver ça sur Internet, maintenant c'est vendu, et donc c'est tout à fait naturel et consommable. On a ici, vous pourrez voir tout à l'heure en vous baladant, quelques grains avec des couleurs un peu originales, donc du rouge, du marron, etc. Et donc c'est simplement la différence entre ces maïs-là et ce maïs qu'on connaît, nous, c'est des mutations naturelles qui arrivent sur les gènes, qui empêchent certains gènes de fonctionner correctement, et en particulier les gènes impliqués dans la coloration. Donc si vous avez des gènes qui sont censés faire une certaine pigmentation et qui marchent moins bien ou qui marchent pas du tout, eh bien, vous allez empêcher cette couleur-là d'apparaître et vous arrivez sur des couleurs plus pâles, voire jusqu'au jaune. Ok, je vous ai montré les maïs tels qu'on les trouve dans les champs. On n'a pas qu'une variété de maïs. On a des centaines, des milliers de variétés de maïs qui existent. Et on a des maïs qui existent avec des usages bien particuliers. Vous connaissez le maïs que nous on mange, par exemple, le maïs qu'on appelle le maïs doux. C'est pas le même que le maïs qu'on donne à manger aux animaux. Ça n'a absolument rien à voir. Et le troisième exemple qu'on va prendre ici, c'est le maïs à pop-corn. C'est encore un maïs qui est particulier. Vous ne pouvez pas faire du pop-corn avec ce maïs-là, ça ne marchera jamais. Vous ne pouvez pas en faire non plus avec du maïs pour les animaux. Et donc, on a des variétés de maïs qui sont différentes, qui ont des propriétés différentes, qui vont donner des usages très particuliers. Et donc, c'est ces différentes variétés qui vont être utilisées, plantées, semées, en fonction de l'usage qu'on veut en faire. Donc, vous ne baladez pas dans un champ, récupérer un épi de maïs en pensant le consommer chez vous. Si vous allez récupérer, sans le savoir, un maïs qui est fait pour les animaux, c'est juste dégueulasse. Donc, il faut faire attention un petit peu quand on veut essayer, comme ça, de récupérer des choses dans les champs. Ce n'est pas toujours adapté. La différence, vous allez pouvoir venir la voir tout à l'heure entre les deux ici. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur du grain, dans le maïs qui est pour les animaux, vous avez un sucre. Qu'on appelle l'amidon. Et l'amidon, c'est une source d'énergie qui est très importante pour l'homme. C'est la principale apport de calories chez l'homme. On le trouve, nous, dans la pomme de terre, par exemple. On fera une expérience tout à l'heure, on récupérera l'amidon de la pomme de terre. Donc, c'est très simple. Vous allez voir, pour récupérer de l'amidon, on peut en récupérer très facilement en grande quantité. C'est donc l'amidon, c'est la principale source d'énergie pour l'homme. On en a donc dans les pommes de terre, dans les céréales, tout ce qui est maïs, blé, riz, on en trouve l'amidon là-dedans. La farine, c'est de l'amidon, simplement. Quand vous faites vos gâteaux, ce que vous voulez, la farine, c'est simplement de l'amidon qui a été récupéré. Sauf que si vous croquez un grain de maïs pour animaux qui est bourré d'amidon, gustativement, c'est vraiment, c'est pâteux, c'est vraiment pas bon, quoi. Alors, pour l'usage chez l'homme, il y a un maïs qui a été identifié, pareil, une mutation naturelle dans les champs. On ne savait pas trop ce qui se passait dans le grain, mais on s'est rendu compte qu'il était bien meilleur gustativement. Et en fait, dans ces grains-là, c'est plus de l'amidon qui est fabriqué par la plante, c'est un autre sucre qu'on appelle le glycogène, qui est soluble pour le coup, qui ne fait pas des grains qui vont couler dans de l'eau. Hein, il va bien se mélanger à l'eau, il est soluble dans l'eau. Et gustativement, il est bien meilleur. Il y a vraiment un goût sucré. Et pour l'homme, on n'a pas cette sensation pâteuse dans la bouche. Alors quand on laisse sécher des grains, bah, les grains de maïs séchés, vous savez à quoi ça ressemble, vous en verrez ici. Et ça, si on le fait sécher, eh ben c'est pareil, j'ai mis ça ici. Vous allez voir, c'est tout ratatiné, c'est quasiment vide. Quand c'est complètement séché, ça ressemble à pas grand-chose de connu. Ouais, tu peux faire passer ça éventuellement.
Ou je les passe sur le microscope.
Ou tu les passes sur le microscope si tu veux.
Je vais les passer sur la
bière. Et donc, bah, tant qu'on profite du microscope, vous voyez ici, il y a un grain de maïs qui est présenté. La partie blanche qu'on voit au centre, c'est l'amidon. Donc ça, on peut l'identifier facilement, par exemple, en mettant un peu de iode. Ça va se colorer tout de suite en marron. Souvent, on fait ça dans les collèges, lycées avec les enfants pour identifier ce sucre-là. Donc l'amidon, c'est un sucre complexe. Hein. On va mettre un peu de iode et on voit de quoi c'est fait. Donc l'amidon, c'est juste du glucose, en fait, hein, à la base. Donc, vous voyez la différence. Ça, c'est un grain de maïs doux, comme pour nous, qui a été simplement laissé à l'air. Vous voyez qu'il est complètement tout ratatiné, on n'a pas cet amidon à l'intérieur, il n'y en a pas du tout. Et si on vous présente l'autre grain, donc le grain d'amidon pour animaux, vous voyez cette partie blanche qui est l'amidon, et qui donc est l'apport calorique pour les animaux. Alors la grosse différence entre, par contre, l'amidon pour animaux et l'amidon pour popcorn, eh bien, c'est simplement l'enveloppe du grain, qui va être un petit peu différente, et qui va être bien plus résistante dans les grains ici pour popcorn. L'idée, c'est quand vous allez faire chauffer votre grain, l'amidon pour animaux, l'enveloppe, au moment de la mise en chaleur, va casser assez rapidement, libérer les molécules d'eau qui sont à l'intérieur du grain, toujours un petit peu d'eau quand même, alors que dans l'amidon pour maïs, vous allez avoir un effet cocotte-minute. Le fait que l'enveloppe soit beaucoup plus résistante, vous allez monter fort en pression à l'intérieur. Et au bout d'un moment, le grain va vraiment éclater. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pour ça qu'on voit le pop-corn jaillir. C'est simplement les grains qui éclatent. Corentin va vous diffuser une vidéo qu'on a préparée. Au ralenti, un grain qui éclate. Et donc ce qu'on voit là, c'est l'amidon en fait, qui a été chauffé à forte température et qui refroidit instantanément au contact de l'air et qui prend une forme solidifiée. Et donc ça, c'est possible uniquement si l'enveloppe est vraiment très résistante et qu'on a cet effet cocotte-minute à l'intérieur du grain. Sinon, ça ne marche pas.
On utilise des méthodes biophysiques qui sont assez apparentées à la microscopie, dans le sens où on va envoyer un rayonnement sur l'échantillon et regarder ce qui se passe. Sauf qu'à l'échelle de l'atome, donc à l'échelle des molécules que je veux regarder, avec la lumière, ça ne marche pas, donc je dois envoyer des rayons X pour pouvoir récupérer un signal qui va me donner la structure à l'échelle atomique cette fois. Donc, c'est-à-dire que je vais réellement voir les atomes, hein, les molécules, comme vous les voyez là, je les vois. Alors, je ne les vois pas avec mes yeux, hein, je n'ai pas un super pouvoir, hein, mais ça, c'est un résultat typique. Donc, il montre, alors la chaîne là, vous pouvez voir le début, alors ici, donc en bleu, c'est le début, on va vers le rouge. Donc, la chaîne telle qu'elle est décrite par le collier de perles, elle commence là. Et elle finit là, d'accord ? Mais vous voyez par exemple que cette perle-là qui est au tout début est en contact avec celle-là qui est quand même sur la séquence vachement éloignée. Donc je ne peux pas prévoir au départ qui va être à côté de qui et qui va pouvoir fonctionner avec qui et qui va pouvoir donner les caractéristiques chimiques de ma protéine que je veux étudier. Donc ici on a une protéine qui interagit en fait avec des hélices d'amidon. Comme ça, c'est une protéine qui va venir participer à la formation des grains d'amidon. Alors, ça reste quand même dynamique, parce que ça bouge un petit peu, c'est pas figé, mais elle a une forme, c'est toujours la même en fait. Si elle a une structure, enfin pratiquement toujours la même, mais dans l'extrême majorité des cas, elle a toujours la même. S'il y a des circonstances qui font qu'elle a plus la même et qu'elle se replie différemment, dans le cas de la médecine, c'est ce qu'on appelle les maladies conformationnelles, comme Alzheimer, le prion, Parkinson. Donc c'est lié à une protéine qui, à l'état naturel, va avoir une certaine structure. Et pour des des raisons qu'on ne connaît pas, dans certains cas, va adopter une autre structure qui, là, du coup, elle ne va pas pouvoir remplir sa fonction et ça va créer des problèmes de santé. Donc, c'est exactement le cas de la protéine tau, par exemple, dans le cas de la molécule de la maladie d'Alzheimer, qui normalement est à l'état normal dans le cerveau et qui, d'un coup, va changer de structure, qui va faire qu'elle va former des paquets et vous bloquer vos neurones. Donc, c'est... Quand une protéine dans l'organisme change de structure, en général, c'est pas terrible. Elle change de fonction déjà. Alors donc, moi, pour étudier les protéines, j'ai besoin de les produire en grande quantité. Alors, soit elles sont dans un organe ou dans quelque chose où elles sont surreprésentées, ce qui est quand même assez rare. Soit maintenant, comme on est quand même des gros esclavagistes, on les fait produire par des bactéries. En fait, on a formaté des bactéries pour pouvoir les utiliser comme usine de production de protéines, c'est-à-dire que je vais prendre le gène que je connais de la protéine que je veux produire, je vais l'introduire dans le génome de la bactérie et je vais lui dire, maintenant, quand je veux, tu produis ma protéine et tu la produis en beaucoup plus grande quantité que tes protéines à toi. Donc, c'est quand même assez confortable. Et donc, c'est ce qu'on fait couramment au laboratoire. Donc, je transforme ma bactérie avec un gène. Pour pouvoir la différencier des bactéries qui n'auraient pas reçu ce gène, je couple le gène que je lui donne avec un gène qui rend les bactéries résistantes à un certain antibiotique. Et donc, je transforme mes bactéries et après, je les fais pousser dans un milieu. Je sélectionne celles qui ont reçu le gène en les faisant pousser dans un milieu qui contient l'antibiotique en question. Et donc, seules celles qui ont été transformées efficacement vont pousser. Les autres vont mourir. Donc, comme ça, je vais récupérer uniquement les bactéries qui m'intéressent. Donc c'est ce qu'on voit ici. En fait, j'ai transformé des bactéries dans un milieu liquide. Je leur ai introduit mon gène, enfin le gène d'intérêt plus une résistante aux antibiotiques. Je les fais pousser sur une gélose en fait qui contient des nutriments, tout ce dont elle a besoin pour pousser, et l'antibiotique. Donc seules celles qui ont reçu le gène et l'antibiotique vont pousser. Donc ça se traduit comme ça. Vous voyez qu'on voit ce qu'on appelle des colonies. En fait, ça, à l'origine de cette... Alors là, c'est une grande quantité de bactéries, mais à l'origine de cette colonie, il y a une seule bactérie qui a été transformée. Et comme ça pousse sur la nuit, ben ça va faire ce qu'on appelle des clones. Donc ça, c'est toutes les bactéries sont génétiquement les mêmes. Donc là, j'ai sélectionné celles qui ont reçu mon gène d'intérêt. D'accord ? Je vais pouvoir maintenant les faire pousser en grande quantité pour qu'elles puissent produire ma protéine, pour que j'en ai assez pour faire mon analyse.
Donc, bonjour, moi je suis Corentin Sprier, donc je suis ingénieur de recherche et je travaille à l'UGSF et au PLBS. Et donc je fais partie des animateurs de cette visite insolite du CNRS.
Voilà, donc ces deux labos, ils sont côte à côte ou ils sont associés ?
Alors en fait, on a deux choses différentes. On a l'UGSF, donc c'est une unité de recherche, donc l'unité de glycobiologie structurelle et fonctionnelle. Et en fait, l'idée de cette unité, c'est d'étudier les sucres, donc étudier les sucres sous toutes ses formes. Donc ça peut être la façon dont ça va être stocké dans les plantes, ça peut être la façon dont ça va être utilisé par la cellule pour changer des informations, pour contrôler son destin. Et les PLBS, en fait, c'est des plateformes, donc les plateformes lilloises en biologie santé. Et c'est grâce à ces plateformes qu'on va avoir accès à des équipements de pointe qui vont nous permettre de réaliser cette recherche. Et donc moi, je travaille des deux côtés, du côté recherche fondamentale et du côté donner les moyens.
Donc c'est assez rare de visiter vos labos.
Alors c'est quelque chose qu'on fait effectivement assez rarement et une initiative assez sympa proposée par le CNRS d'avoir ce format-là où on profite de la fête de la science pour montrer en vrai à quoi ça ressemble les labos de recherche.
Donc dans ces labos, on y produit de la réflexion, on produit aussi de la prospective.
Bien sûr, oui. On est en train de voir les recherches qui sont en train de se faire actuellement. Donc nous, on reste une unité de biologie fondamentale, donc on a énormément de choses qui sont bien à traduire au public pour expliquer un peu ce qu'on fait, parce que ça reste des choses de spécialistes. Mais typiquement, sur ce qu'on a vu sur les biomatériaux, par exemple, ça donne une idée des perspectives qu'on va avoir sur l'avenir.
Alors, on voit bien à travers d'expériences très simples ou de matériaux hein, qui sont présentés ici, des choses, on pourrait même se demander pourquoi ça n'a pas été utilisé plus tôt. Par exemple, toutes ces matières qu'on peut utiliser maintenant, qui sont à base de matériaux naturels, on va dire, de produits naturels, pourquoi on a gardé si longtemps le plastique ou de choses un peu polluantes et dont on ne sait trop que faire ?
En fait, là, c'est une des difficultés en venant ici, c'est que vous voyez vraiment bah, là où on en est de la recherche. Et en fait, il y a pas mal de choses que nous, on est capable de faire à une échelle de laboratoire. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, il faut être capable de le décliner sur une échelle un peu plus massive, parce que faire quelque chose dans sa casserole et faire quelque chose sous forme de millions de tonnes, c'est pas la même chose. Et après, il faut optimiser les procédés et réussir à avoir de la production qui soit financièrement intéressante. C'est-à-dire que si on propose une solution écologique en général, si elle coûte 10 fois plus cher que la version polluante, les gens vont rester sur la version polluante. Donc là, typiquement, bah, ces produits biosourcés, nous on travaille dessus depuis très longtemps. Mais par contre, bah, je pense qu'il y a déjà l'opinion publique qui a été sensibilisée, donc il y a des intérêts économiques, et il y a le temps bah, que l'industrie et qu'on passe de la science fondamentale à l'application et à l'industrialisation.
Donc ce qui est produit en termes de recherche hein, dans vos laboratoires, est-ce qu'on peut dire qu'il y a déjà une projection qui peut en être faite à 5 ans, 10 ans, 20 ans ?
Ça dépend vraiment des recherches, en fait. On va avoir des choses qui sont vraiment des recherches d'amont et qui vont permettre de mieux comprendre des mécanismes. Donc là, en général, c'est plutôt des projections plus longues. Alors, évidemment, ça va être utilisé par la société civile, parce que comprendre les mécanismes, ça va après permettre de trouver des solutions et de trouver la façon de les utiliser. Un des exemples, donc là, qui est présenté par Vincent en microscopie, on a des projets où on essaye de mieux comprendre la lignine, donc c'est une des molécules qui va constituer la paroi végétale, et en fait ça c'est important de comprendre comment elle se fabrique, parce qu'on va être capable de mieux utiliser les produits du bois, et donc de les utiliser pour faire des biocarburants, pour optimiser la papeterie, pour faire des matériaux. Donc ça c'est typiquement des choses où on apprend le fonctionnement, on apprend comment ça fonctionne, et à terme ce sera repris par d'autres chercheurs qui en trouveront l'application qu'on peut en faire.
Alors c'est vrai que ces applications elles sont sans doute attendues par l'industrie. Est-ce que pour autant les décideurs qui sont des élus ou des politiques, on va dire d'une manière générale, ont conscience des enjeux, voire même des possibilités qui ne sont pas forcément exploitées et d'autres qui vont être exploitées mais qui présenteraient éventuellement un danger ?
Alors la question est très compliquée, je pense qu'elle est très variable en fonction des personnes. Enfin, la réponse entre guillemets que je pourrais faire là-dessus, c'est qu'il y a la recherche, nous en fait on va produire de la connaissance, mais notre connaissance en général elle est très ciblée, elle est très difficile à comprendre pour le grand public, et aussi pour les décideurs et aussi pour les politiques. C'est aussi pour ça que je pense que c'est très important les actions de communication, les actions de médiation, les actions de vulgarisation, parce que tout ça, ça participe à enrichir la société civile, à enrichir le débat qu'il va y avoir, et en fait si le débat s'enrichit, les pouvoirs publics s'adaptent, suivent, et donc pour répondre aux envies de leurs concitoyens, bah, ils vont essayer de prendre en compte justement, notamment les, on voit au niveau de l'écologie, il y a une prise de conscience au niveau de la population, et on sent politiquement que ça a un impact très net et que ça impacte les décisions politiques aussi. Voilà, je pense que c'est très variable et ça dépend un peu de tout ça.
Donc une question peut-être plus spécifique par rapport à la formation des journalistes. Est-ce que ce que vous voyez dans les médias correspond, vous, à ce que vous voudriez voir exprimé de la recherche, et notamment la partie vulgarisation, est-ce qu'elle vous paraît suffisante, satisfaisante, et est-ce qu'elle donne des vraies clés de compréhension au public, aux spectateurs, voire, comme on disait, un peu aux politiques ?
Je pense que c'est une fois encore très variable. On a des excellents médiateurs, des excellents vulgarisateurs. Enfin, à titre personnel, je suis abonné à de nombreuses chaînes YouTube, par exemple, qui font de la vulgarisation et de la médiation scientifique, et même de la médiation tout court, parce que, enfin, en histoire, en art, il y a des choses intéressantes aussi. Et il y en a qui sont vraiment passionnants. Moi, en général, je suis plus convaincu par ce que je vais trouver sur des médias spécialisés. Effectivement, on va avoir une émission sur un type de thème ou un type de sujet. C'est très compliqué d'être médiateur et d'être médiateur pour l'ensemble des sciences. C'est très, très vaste comme domaine. Et on n'est plus à l'époque où le chercheur avait la connaissance absolue sur l'ensemble de l'univers. Maintenant, les connaissances sont beaucoup trop pointues. Donc, on peut être spécialiste sur une chose. Après, moi, je trouve toujours ça un peu délicat quand on va avoir dans les médias traditionnels où on essaie de faire du sensationnel. Souvent, les informations sensationnelles sont relayées. Donc, on va, quand on a une grosse info, on va avoir une grosse pub dessus. Par contre, bah, si au final l'info elle n'était pas tout à fait ce qu'on pensait, il n'y aura pas le même suivi. Donc il y a des choses très très bien, il faut garder un esprit critique, et je pense que c'est ça le plus important en fait. Une fois que le sujet vous intéresse un peu, essayez d'aller le creuser d'un petit peu plus près, croiser les sources et voir si ça se recoupe bien.
Alors il y a aussi tout ce qui relève du conspirationnisme. Est-ce qu'on pourrait là donner une idée d'un site web, enfin d'une chaîne YouTube pour le coup qui vous semblerait assez sérieuse et intéressante?
Le défaut, c'est qu'on va avoir des choses qui sont très spécifiques. Par exemple, moi, il y a Y-Penser que je trouve excessivement intéressant parce qu'on va avoir, bah, notamment sur la physique quantique, des explications qui sont très intéressantes, très bien faites. Après, un truc que moi, j'ai trouvé absolument fantastique, c'est Alexandre Astier et son exo-conférence. La présentation et les explications qui sont faites dedans sont d'une pertinence, d'une justesse qui est incroyable. Et ça, j'invite tout le monde à aller voir ça.
Donc au-delà des médias traditionnels, voire même récents, il y a aussi l'université qui produit des médias, enfin qui produit des supports peut-être aussi de cours ou des supports pour les étudiants ou le grand public. Hein. Est-ce qu'il y a dans l'ensemble de ce qui est préservé par l'université quelque chose qui correspond à votre dominante ?
Alors moi j'ai un profil qui est un peu particulier où je suis un peu à l'interface entre pas mal de choses. Donc au final, bah, je pense que le site qui décrit mieux mon activité, c'est le mien, où il va y avoir à la fois les aspects scientifiques, on va retrouver mes articles scientifiques, mais il y aura aussi, je fais beaucoup de relations entre l'art contemporain et les sciences biologiques, donc il y a aussi ça qui est développé, il y a les parties médiation, les parties communication. Donc comme c'est très divers, sur ma partie spécifique, bah, j'ai fait mon petit site à moi, quoi.
Au niveau de l'art contemporain, vous travaillez avec le Frénois, par exemple ?
Oui, je travaille avec le Frénois. Je travaille aussi énormément avec l'École supérieure d'art de Tourcoing dans le cadre du programme de recherche Images, Sciences et Technologies. C'est par ça, en fait, que j'ai découvert l'art contemporain. Et donc, on reçoit régulièrement des étudiants ici. On reçoit, j'ai eu différentes collaborations avec des personnes du Frénois, en particulier avec Pierre Pose, avec lequel je me suis énormément amusé. Pendant 2 ans. Et donc, on a différents artistes qui viennent et on a aussi des résidences artistiques qui se font ici. Et là, dans les dernières résidences qu'on a organisées, donc c'était avec Adèle Tilwin et Tyler Kaufman, on a eu quelque chose qui nous a permis après de faire de la médiation scientifique et d'aller justement voir les enfants pour les sensibiliser à la fois à la biologie cellulaire, au tissu, mais aussi à l'art, à l'écriture et aux langues. Donc on a pu faire des ateliers un peu à l'interface entre tout ça.
Donc voilà, des partenariats entre la science et l'art, pourquoi pas aussi avec la philosophie un jour ?
Ah mais complètement, l'idée c'est exactement ça, et l'art c'est une des façons justement de faire des ponts avec les autres disciplines. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup l'interdisciplinarité, je l'ai beaucoup fait entre les différentes sciences dites dures. Là justement, pouvoir découvrir les sciences humaines et les intégrer dans les réflexions, c'est super intéressant et ça donne d'autres regards sur ce qu'on fait nous, donc c'est génial.